Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La crise sanitaire de ces derniers mois a profondément bouleversé le rapport au travail, en particulier dans les régions où les autorités ont pris de strictes mesures de confinement. Le monde du travail s'est alors divisé entre celles et ceux qui ont pu travailler de chez eux. Et à cette occasion, on a pu voir se développer comme jamais auparavant l'expérience et l'implantation du télétravail. La maison pour certains, mais pour les autres, il a fallu continuer dans les commerces, les transports, les structures de soins, ordures à ramasser, bureaux à nettoyer, des travailleurs exposés, et ce d'autant plus que dans un pays comme la France, il a fallu attendre avant que ne soient mis à disposition les dispositifs de protection. Aujourd'hui, on ignore encore quel tribut sera payé par ces travailleurs en première ligne, travailleurs et quantitativement aussi, il faut le souligner, surtout travailleuses potentiellement exposées à la contamination. Irruption de ce risque infectieux comme de risque psychique quand le télétravail a gommé aussi la frontière entre le temps professionnel et le temps familial. Risques psychosociaux, maladies professionnelles, aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de la prévention, de la protection des travailleurs. Accidents du travail, surmenage, cette santé au travail recouvre un champ extrêmement large, fait d'obligations, de réglementations, mais aussi de contournement et de pression, un domaine à la croisée de l'économie, du droit, du social et de la médecine. La santé au travail, risque physique, risque psychique. Pour en parler, nous retrouvons nos invités tout d'abord en ligne avec nous. Docteur Marielle Dumortier, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin du travail dans la région Île-de-France. Recherche sociologie avec vous, Anité Beaumoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche honoraire à l'INSERM, chercheur associé au groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle à l'université Paris 13. En ligne du Burkina Faso, nous retrouvons le professeur Haruna Ouedraogo. Bonjour professeur.
Oui, bonjour madame Caroline Paré.
Vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouedraogo d'Ouagadougou, président également de la société burkinabé de santé mentale. Et au cours de cette émission, on va également donner la parole à Michel Herry. Il est responsable de la mission veille et prospective à l'Institut national de recherche et de sécurité. Il a travaillé notamment sur l'impact de la pandémie sur ce monde du travail.
Priorité santé sur RFI.
Alors pour commencer, la parole à une médecin du travail, à vous docteur Marielle Dumortier, pour que vous nous expliquiez votre mode d'exercice et peut-être par l'anecdote avec ce cabinet médical un petit peu particulier.
Oui, mon mode d'exercice en tant que médecin du travail, je ne fais de la médecine uniquement préventive et ma spécificité c'est de connaître les conditions de travail. C'est-à-dire que mon activité est divisée en deux parties, une activité purement clinique dans un cabinet médical qui peut être en bure, normal, ou alors effectivement dans un camion médical qui nous permet, ce camion, de nous rendre au plus près des postes de travail. On consulte alors dans les entreprises, vraiment au plus près du tissu industriel. Et ça, c'est très très intéressant pour nous médecins comme pour les salariés. Et nous avons une deuxième partie de notre activité qui représente le tiers de notre temps de travail qui est d'aller dans les entreprises pour faire des études de poste pour connaître la réalité du travail.
Donc ça repose énormément sur l'observation. Vous travaillez en réseau avec une quantité d'entreprises attitrées ?
Absolument. Nous avons, chaque médecin du travail a un secteur qui lui est attribué avec un nombre d'entreprises. Donc, pour ma part, j'ai tout type d'entreprises. Je peux avoir des sièges sociaux, des petites industries, des commerces. Ce qui fait le grand intérêt de notre travail, c'est qu'on a donc une multitude de professions, de situations de travail. Et dans une entreprise, on voit tous les salariés, c'est-à-dire qu'on voit les postes les plus importants comme les postes les plus subalterne et c'est vraiment ça la richesse, puisque chaque entreprise doit avoir un service de santé au travail et que chaque salarié doit avoir un suivi médical de sa santé au travail.
Docteur Dumortier, on va bien sûr parler longuement de l'impact spécifique de la pandémie sur ce monde du travail, hein, la santé du travail en général aussi. Peut-être votre regard, votre expérience, vous avez pas mal d'années d'exercice derrière vous. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé dans votre domaine ?
Suite à la pandémie ?
Non, suite à ces années derrière vous, deux décennies au moins d'exercice, est-ce que vous avez vu une évolution globale ?
Ah bien sûr, alors moi je suis médecin du travail dans un très gros service de médecine du travail qui est la CMF, j'y travaille depuis 35 ans et j'ai vraiment vu le monde du travail complètement changer. Quand j'ai commencé ma carrière, quand les gens se plaignaient de leur travail, c'était toujours « docteur, c'est trop lourd, il y a trop de poussière, il y a trop de bruit ». Maintenant on n'entend plus du tout ça dans nos consultations. Depuis une quinzaine d'années, c'est « docteur, je suis épuisé, docteur, je n'en peux plus, docteur, on m'en demande trop ». Comme si finalement la surcharge mentale avait remplacé la surcharge physique. Elle n'a pas disparu, cette surcharge physique, mais elle est vraiment supplantée par la surcharge mentale, et ça dans tous les métiers.
Et c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure aussi au travers de différents témoignages. Parler de la santé au travail, c'est aussi parler, Annie Thébaumoni, des risques d'exposition, des maladies professionnelles, du droit de la reconnaissance. Par rapport à ce qu'on vient de vivre, cette séparation entre, on va dire, les télétravailleurs et les travailleurs de terrain, les travailleurs exposés, comment la sociologue et aussi la militante que vous êtes au sein de l'association Henri Pezera regarde ces semaines écoulées, ces semaines derrière nous ?
Alors, je crois que je m'inscris complètement dans ce que vient de dire le docteur Dumortier, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a des risques qui sont constamment invisibles et dont les salariés ne sont pas informés et qui sont des risques redoutables puisque c'est les risques toxiques, c'est les agents infectieux et l'arrivée du Covid dans ce contexte, c'est un risque invisible, mais qui tout d'un coup devient visible au niveau de la société tout entière, avec en quelque sorte ce que nous appelons un double standard, c'est-à-dire d'un côté la population à qui on intime l'ordre d'être confinée avec l'impossibilité de sortir, etc., et de l'autre, des travailleurs qui se sont trouvés dans l'obligation de travailler. Alors je voudrais prendre un exemple qui me tient à cœur parce que ça fait très longtemps que je travaille aux côtés de ces travailleurs, c'est les travailleurs du nettoyage qui interviennent en particulier dans des contextes de sous-traitance ou d'intérim. Parce que c'est vraiment ceux pour lesquels, ceux et celles, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le nettoyage, pour lesquels aucun effort n'a été fait durant toute la crise du Covid pour les informer, pour leur donner le matériel nécessaire et pour faire en sorte qu'ils soient protégés. Et moi, j'ai des témoignages de ces travailleurs qui disaient partir au travail la peur au ventre, mais c'est aussi le cas dans la logistique, en grande distribution, ça a été le cas pour les caissières de supermarché et bien sûr pour les soignants.
Et on a vu aussi d'ailleurs aussi pour les livreurs, c'est vrai qu'il a fallu un certain temps, par exemple pour installer des vitres de protection de séparation dans les commerces, il a fallu du temps, on en a beaucoup parlé, pour que des masques en quantité et de qualité soient mis à disposition. D'ailleurs, Annie Thébaumoni, il y a eu des recours qui illustrent justement l'existence de contre-pouvoirs, même si ça reste ponctuel.
Alors absolument, c'est-à-dire que en fait ça s'est plutôt placé, enfin... Il y a eu des recours pendant la période de confinement avec, par exemple, les syndicalistes qui ont sollicité le juge des référés qui doit statuer dans les quelques jours après le dépôt de plainte sur des situations de danger grave et imminent. Ça a été le cas chez Amazon, ça a été le cas à La Poste. Et puis, à la fin du confinement, avec la reprise du travail, alors là, c'est un recours en référé où le juge a été extrêmement précis sur l'ensemble des infractions commises par Renault Sandouville, donc la direction de Renault Sandouville, sur les précautions qui auraient dû être prises et qui ne l'avaient pas été. Mmh. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit d'une situation qui est très très inquiétante sur la gestion des risques, dès lors que ce sont des risques invisibles et que les salariés concernés n'ont pas l'information ou n'ont pas la possibilité et les marges de manœuvre pour exiger des conditions de travail qui respectent leur vie et leur santé.
Et là, on perçoit bien la dimension complètement transversale de cette santé au travail, directement liée aux droits des travailleurs, à la santé des travailleurs. On va reparler de ces risques physiques tout à l'heure, si vous le voulez bien. On va joindre le professeur Haruna Ouédraogo, qu'on a salué tout à l'heure. Bien sûr, les conditions du confinement ont été très différentes dans un pays comme le Burkina Faso. Mais professeur Ouédraogo, notamment sur le plan psychique, il a fallu accompagner les patients Covid, là, qui ont été mis en situation d'isolement.
Oui, tout à fait. C'est une situation qui a été assez difficile à supporter, à la fois par les personnes qui sont atteintes de Covid, mais également par leur entourage, qui devait donc observer un confinement, donc une rupture avec l'extérieur, avec le milieu environnant. Et cela n'a pas été facile. Donc il faut, dans ce genre de situation, développer des stratégies à travers, n'est-ce pas, les médias pour apporter justement du soutien psychologique à ces personnes qui se retrouvent donc dans ce genre de situation non désirée et qui crée forcément du déplaisir, qui crée de l'inconfort et qui souvent aussi peut déboucher sur un certain nombre de troubles de santé mentale.
Alors, impact psychique au travail, justement, on en parle avec vous, professeur Ouédraogo. Est-ce que vous avez le sentiment, y compris dans un pays comme le Burkina, qu'aujourd'hui, davantage de dépression, davantage d'expression du mal-être sont associées aux conditions de travail et aux exigences de certains métiers?
Oui, c'est un problème universel, hein, parce que l'utilité du travail pour la santé de l'individu, en fait, est bien connue, mais de plus en plus, il y a un certain nombre d'exigences au travail que l'employé n'est pas toujours en mesure de satisfaire. Et du point de vue du soutien dont il peut bénéficier de la part de la hiérarchie, de la part de ses collaborateurs, il y a de plus en plus également des difficultés, en fait, de ce point de vue-là. Et parfois, on assiste, en fait, à des situations où l'employé lui-même, en fait, n'a aucun pouvoir, en fait, de décision sur ce qu'il doit faire. Donc, à la limite, c'est comme s'il était un pion, un élément, un maillon d'une chaîne. Et donc, cette façon de faire ne facilite pas, en fait, l'épanouissement au plan psychologique du travailleur, d'où, bien entendu, des complications sur le plan psychologique qui ont été décrites un peu partout. Et donc, également, dans notre pays, on rencontre les mêmes situations, madame.
Vous restez en ligne avec nous. On va tout de suite donner la parole à un premier témoin dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et cette travailleuse, c'est vous, Rachel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour décrire votre parcours, depuis peu de temps, vous êtes gouvernante, mais vous avez très longtemps été femme de chambre dans le secteur de l'hôtellerie en région parisienne. Depuis combien d'années, on va dire, vous faites ces chambres?
Mais je suis devenue gouvernante à peu près un an et demi, donc j'ai commencé le boulot depuis le 23 avril 2003. Donc, j'ai été femme de chambre depuis 16 ans.
Alors, si on vous donne la parole aujourd'hui, c'est parce que vous avez des problèmes de santé directement liés à votre activité professionnelle, justement. Décrivez-nous ces problèmes.
Mais vous savez, le problème de femme de chambre et de gouvernante, c'est un travail très, 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 très physique. Et c'est un travail qui abîme le corps des femmes de chambre parce que la majorité de ceux qui font ce métier, c'est les femmes de chambre. Et parmi ces femmes de chambre au travail gouvernante, nous sommes à peu près 15 personnes qui sont inaptes, qui sont malades, qui sont handicapées de ce boulot-là. Moi, j'ai eu la tendinite deux fois. J'ai eu le dos coincé. Donc, j'ai mes collègues aussi qui ont des genoux enflés, qui ont des pieds qui sont abîmés. Donc, vous voyez comment ce boulot abîme le corps des gens qui font ce métier-là.
Il y a une expression, on dit c'est usant. C'est votre corps aujourd'hui, vous le sentez comme usé?
C'est vraiment, c'est usé parce que avec la tendinite que j'ai fait même une infiltration. Puisque quand j'ai eu cet accident, c'est en tirant le lit que j'ai pris un coup sur le nerf du poignet droit. Donc, c'est avec la main droite que je fais tout. Donc, imaginez-vous un peu, je n'arrive plus même à couper de la viande, à faire manger pour mes enfants. Et heureusement que j'ai des enfants, c'est eux qui me font tout. Et c'est ma fille même de 12 ans qui me lave le dos, qui me met la crème sur le corps, parce que ce travail m'a abîmé complètement.
Comment vous gérez la douleur? Vous prenez des choses? Vous avez consulté? Vous parliez tout à l'heure des infiltrations.
Oui, quand j'ai eu l'accident au travail, j'ai eu un papier venant de ma responsable et qui m'a mis en accident de travail. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant et qui m'a envoyé chez un rhumatologue pour me prescrire une infiltration et qui m'a fait aussi des examens, c'est-à-dire l'échographie, le scanner. Et ça, ils ont vu vraiment qu'il fallait que je me repose. Donc, je suis restée quand même 3 mois et demi à la maison. Voilà, sans vraiment bouger parce qu'il fallait que je me repose. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cette douleur dans le poignet. Jusqu'à aujourd'hui, je mets une attelle pour dormir. Je prends ibuprofène, souvent je prends des doliprane. Mais bon, ça se calme et ça revient. J'ai fait l'infiltration, mais bon.
Une prise en charge plutôt bonne, on va dire, mais du côté de la reconnaissance de vos problèmes de santé, est-ce qu'on a parlé d'une maladie professionnelle? Qu'est-ce que vous avez en termes matériels, justement, pour continuer à avoir des ressources financières avec ce gros problème de santé?
Mais je suis allée voir le médecin de travail qui m'a dit, comme ça fait 2 fois que j'ai ce même problème, donc elle m'a fait faire des dossiers. Donc, ma maladie a été reconnue comme maladie professionnelle, mais ils m'ont donné une carte d'invalidité, mais ils ne me donnent pas de sous parce qu'ils ont reconnu ça, ils ont dit que c'est une maladie professionnelle et ça s'arrête là. Donc, ils ne me donnent pas de sous pour pouvoir vivre avec. Donc, je suis obligée d'aller travailler avec la baisse des chambres parce que quand même, étant gouvernant, je contrôle 130 chambres par jour. Et c'est énorme. Donc, le médecin de travail, vu que je contrôle 130 chambres par jour, a demandé qu'on me baisse les chambres à 80 chambres. Mais avec 80 chambres, je n'arrive pas. Je fais un effort parce qu'il faut que je vive quand même.
Voilà. Eh ben, on vous dit bon courage, hein, Rachel. Bon courage. Je vais poser justement des questions qui concernent votre cas à nos invités. Bien sûr, au médecin du travail, docteur Marielle Dumortier. Une question choc que je vous pose. À quoi ça sert d'avoir la reconnaissance d'une maladie professionnelle si concrètement cela ne débouche sur aucune indemnisation, si la seule chose qu'on en tire finalement, c'est d'avoir une forme de travail allégée, mais la pénibilité du travail, elle est toujours là?
La pénibilité du travail est toujours là, sauf quand même qu'on peut proposer un certain nombre d'aménagements de la pénibilité du travail. Alors dans certains cas, c'est très compliqué, notamment pour effectivement les métiers de l'hôtellerie. Mais quand même, il y a eu quand même des aménagements. C'est-à-dire qu'il y a du matériel maintenant pour changer les couettes, il y a du matériel qui est quand même plus léger, mais c'est vrai que ça reste très pénible. Donc madame, là, a eu une maladie professionnelle ou un accident de travail, je ne sais pas très bien sur quel régime, parce qu'elle a parlé un petit peu des deux. Mais en tout cas, suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail, la sécurité sociale, à un moment donné, va donner à cette salariée une rente en fonction des séquelles qui persistent. C'est vrai que cette rente n'est pas suffisante en règle générale pour en vivre. Il faut vraiment être très, très, très abîmé pour pouvoir vivre de sa rente. Mais on a quand même tout de l'argent. Alors, quand madame faisait référence à la carte d'invalidité, probablement qu'elle parlait du statut qu'elle a eu de travailleur handicapé, qui est un autre statut qui permet là d'envisager un reclassement professionnel avec des organismes qui forment les gens pour avoir apprendre un autre métier. Mais c'est vrai que c'est très, très, très compliqué.
Faut savoir
Et on l'entend bien, ce travail qui use, ce travail qui abîme, le témoignage de Rachel, la pénibilité, les gestes répétitifs. Annie Thébault-Mauny, est-ce que vous avez l'impression parfois qu'on a un petit peu du deux poids, deux mesures en fonction du statut social de certains travailleurs qui sont moins bien protégés que d'autres?
Alors, tout à fait. C'est-à-dire que, de façon générale, la reconnaissance en maladie professionnelle en France, c'est un véritable scandale. C'est un scandale permanent. Quelle que soit la maladie, les indemnisations sont absolument dérisoires. Les mesures qui devraient être prises, justement, pour l'aménagement des postes de travail, le sont à minima. Et je sais que des médecins du travail s'y emploient, mais... au niveau de la possibilité ensuite pour les salariés d'avoir un effectif aménagement de poste, c'est très très difficile. Et comme vous le dites, plus on est dans des travaux comme le travail de nettoyage, comme le travail de femme de chambre dans l'hôtellerie, comme le travail en sous-traitance de nettoyage des hôpitaux, les gens sont usés précocement, et la reconnaissance en maladie professionnelle ou le statut de handicapé ne permet absolument pas de vivre. Et c'est un scandale permanent. Il y a des organisations syndicales qui tentent de travailler avec ces collectifs, avec ces collectifs de travail, mais il y a aussi, et il faut le dire, une attitude antisyndicale non seulement des entreprises de nettoyage qui très souvent, lorsqu'il y a une tentative de syndicalisation dans ces entreprises, n'hésitent pas à utiliser le licenciement, et je dirais de façon incroyablement discriminatoire, et de la part des donneurs d'ordre, c'est-à-dire ceux qui passent des marchés, les entreprises, les compagnies d'assurance, etc., les compagnies comme EDF ou autres, lorsqu'ils passent des contrats de sous-traitance avec des entreprises de nettoyage ou avec des entreprises de maintenance, ont des clauses non écrites selon lesquelles il ne faut pas qu'il y ait de syndicalistes qui viennent sur ces chantiers de nettoyage. Donc il y a une grande difficulté pour ces travailleurs à s'organiser pour obtenir collectivement de meilleures conditions de travail.
On comprend bien que la protection, elle est vraiment au pluriel, hein, protection de la santé, protection des droits. Hier, l'Académie de médecine a publié un communiqué qui concerne les risques encourus par les soignants. Et l'Académie recommande que les conséquences dans l'exercice de leur métier soient prises en charge au titre des accidents du travail, au titre des maladies professionnelles indemnisables. Bien sûr, ce personnel soignant exposé, qui a exercé dans un climat d'angoisse, qui a parfois été confronté au décès des collègues, la perte d'un nombre important de patients, surtout au nord, en Europe, dans les services de réanimation, privés de la présence des familles. Professeur Ouédraogo, est-ce qu'on peut dire que certains environnements professionnels sont particulièrement propices au développement de symptômes, voire même de traumatismes psychiques ?
Oui, absolument. En fait, toutes les professions qui demandent une relation d'aide peuvent malheureusement, en fait, se compliquer par justement des symptômes, notamment en fait le stress au travail qui peut être assez important et qui peut déboucher sur le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, c'est toujours le corps médical, en fait, qui a fait l'objet, en fait, d'études par rapport, n'est-ce pas, à cet épuisement professionnel, mais d'autres professions comme les avocats qui peuvent, en fait, avoir à gérer des personnes qui ont été torturées, à suivre, en fait, des récits assez émouvants de personnes qui ont été confrontées à un certain nombre d'horreurs, peuvent également développer ces symptômes-là. Il y a également les sapeurs-pompiers, dans la plupart des pays, ce sont des gens qui sont toujours au secours d'un certain nombre de blessés et qui vivent au quotidien des situations d'horreur. Donc, ces professions et bien d'autres, bien sûr, peuvent être confrontées donc au stress au travail qui peut atteindre des niveaux assez importants et donc se compliquer d'un certain nombre de maladies, oui, qui peuvent dans certains cas être reconnues comme des maladies professionnelles. Oui, c'est vrai.
Alors, stress de différentes natures, et on va justement revenir à ces changements parfois brutaux sur le plan professionnel avec le bouleversement des habitudes de ces dernières semaines. Témoignage cette fois sur l'expérience, on en a entendu beaucoup parler, du télétravail. Vraiment, ce mode d'activité restera associé au souvenir de la période de confinement. Et on sait de quoi on parle au sein de l'équipe de Priorité Santé.
RFI.
Alors, télétravail pour le meilleur, bien sûr, limiter la transmission du virus, et pour le pire, le surmenage. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, vous étiez en période d'essai quand le confinement a été décidé, vous l'êtes toujours, si je ne me trompe pas, dans le secteur de la banque et de l'assurance. Vous travaillez dans votre entreprise depuis combien de temps?
Donc actuellement, ça va faire à peu près 4 mois depuis que j'ai commencé.
Alors, vous étiez en période de formation quand le confinement a commencé?
Oui, tout à fait, parce que je prenais tout juste mon poste, donc du coup, il fallait que je sois formée sur le poste. Donc, je me suis retrouvée en télétravail avec une formation à distance via Skype.
Alors, ça veut dire que si vous aviez besoin de renseignements, il vous fallait sans cesse demander aux autres, solliciter les autres, c'était difficile?
Tout à fait, parce qu'en fait, je me suis retrouvée, on va dire que H24, en fait, via Skype, appel téléphonique. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi. J'avais l'impression, en fait, d'être tout le temps au téléphone, parce que du coup, l'accès de Skype, en fait, c'est qu'on est tout le temps disponible. Donc, du coup, chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, ben, c'est direct, on appelle. Donc, du coup, moi, j'étais tout le temps constamment, en fait, via Skype, appel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'avais eu l'impression que j'étais toujours dans un beau horaire, en fait.
Et du côté du temps de travail, c'était quoi vos horaires pendant cette période de confinement?
Donc, on va dire que l'habitude, c'est qu'au début du confinement, étant en période d'essai, comme la majorité, une partie des personnes, ce qui m'est arrivé, c'est par exemple, je me dis, t'es réveillée à 8h, et ben, j'étais déjà sur mon ordinateur à 8h. Mmh. Et ben, par rapport à ça, étant donné qu'on était au début, donc je me suis retrouvée des fois à travailler entre 20h et 21h. Donc, c'était assez long les périodes. Il y a même des fois, j'étais en non-stop, pour tout vous dire. J'ai pas eu le temps de manger. Donc, c'est-à-dire que soit j'ai eu le temps de manger dans le sens que j'avais l'ordinateur de mon côté. Donc, j'avais le repas de mon côté et en même temps, je travaillais. Donc,
pas de pause.
Pas de pause, voilà. Pas de pause.
Donc, et pas de pause non plus, par exemple, pour l'activité physique. C'était rivé à l'écran, assis sur la chaise toute la journée.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Toute la journée, comme ça, pendant 2 semaines. Donc, le temps de s'adapter, si on peut dire, mais entre les 2 semaines, c'était très, très intense.
Est-ce que ça a eu un impact sur la qualité de votre sommeil?
Oui, parce qu'en fait, je me suis réveillée à plusieurs reprises le soir, en train de chercher, à me dire que, mon Dieu, j'ai toujours des choses à faire, à me réveiller en sursaut même, plein de fois, plusieurs reprises, à me réveiller en sursaut, en fait, à chercher mon travail. Ah, j'ai oublié de faire ça, il faut que je fasse ça. Ah non, mon Dieu, je pense qu'il faut que j'aille au bureau. Donc, ça m'est arrivé à plusieurs reprises jusqu'à ce que je me rende compte en me disant que, ah non, là, tu es en train de dormir.
Alors là, une véritable obsession, y compris on rêve du travail, pas de pause, pas d'arrêt, du stress. Est-ce que vous avez eu des symptômes? Est-ce que vous arrivez à mettre des mots sur les choses que vous avez ressenties?
On va dire que c'est que j'ai eu, en fait, pendant ces 2 semaines, je ne sais pas si je peux qualifier de crise d'angoisse ou de crise de panique, parce que je me suis arrivée à un moment donné où j'avais mon ordinateur devant moi et ben, j'étais en train de me dire est-ce que je dois travailler ou est-ce que je dois faire autre chose. Donc, je me suis mis à paniquer parce que je ne retrouvais pas mes marques, en fait. Parce que, certes, j'étais chez moi, mais je devrais travailler. Donc, du coup, je pense qu'à un moment donné, mon cerveau, en fait, est resté figé, qui ne savait pas trop qu'est-ce que j'étais en train de faire, qu'est-ce qui était dominant, en fait. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvée que j'étais obligée de mettre l'ordinateur de côté, de me dire que là, tu ne fais rien d'autre, parce que sinon, là, tu vas exploser, tu vas paniquer. Je ne sais pas, en fait, j'étais dans une situation que je ne pouvais pas contrôler, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment m'organiser, comment réagir en fait.
Alors justement, au niveau de la réaction, vous en avez parlé, excusez-moi, vous en avez parlé autour de vous, voire même, est-ce que vous avez consulté un psy?
Oui, justement, j'en ai consulté un psy, c'est le psy qui m'a dit justement, parce que là, tu t'es retrouvée en fait dans une situation que, à la base, tu devrais quitter chez toi, aller au bureau, et quand tu reviens chez toi, de dire que, enfin, je suis chez moi, je peux passer à autre chose. La situation, c'est que je me suis retrouvée en fait dans une situation où j'avais aussi des projets personnels aussi à gérer de mon côté, et en même temps, j'avais le travail à gérer d'un côté en fait. Et surtout par rapport au confinement, on a parlé plus souvent par rapport au travail en fait qui a été changé, mais on a aussi notre vie personnelle parce que dans le cas où on avait des projets, on a tout cet impact-là qui est pris en même temps. Donc on a le travail et notre vie personnelle à gérer en même temps et du coup par rapport à ça, en fait, ça crée un système de blocus en fait. Je me suis retrouvée bloquée, impossible de prendre une action. Donc c'est par rapport à ça, le psychologue m'a dit, grâce à ça, on va dire que le psychologue du travail m'a dit, à partir de là, en fait, il faut que tu crées un système d'organisation en te disant que il y a ça, en fait, que je dois faire qui va de cette heure-là à cette heure-là. Et à partir de cette heure-là, en fait, je dois faire autre chose. Parce que sinon, en fait, je serais restée dans un système impossible de m'organiser, de comment je peux dire ça, qualifier ça, en fait, de prendre des décisions, en fait, pour améliorer en fait ma situation.
Vous dites psychologue du travail, ça veut dire que quand même votre entreprise avait mis à disposition des travailleurs des recours en cas de problème.
Parce qu'en fait, nous, ce qui se passe, on a aussi ça en fait l'entreprise. Mais moi, en fait, j'avais déjà consulté en fait, j'avais déjà un psychologue de mon côté en fait. Donc c'est un psychologue personnel en fait que j'avais.
Alors, c'était une période d'essai, ce sera ma dernière question, Marie. Ça vous a donné envie de continuer dans ce travail, dans cette entreprise?
Oui, parce qu'en fait, l'entreprise, la manière que c'est fait, en fait, ils ont très, très attentif par rapport au confinement et surtout par rapport au télétravail. Donc, ils ont pris en compte, en fait, par rapport à ça, parce que tout de même, on va dire que le travail, c'est, on va dire que par rapport au confinement qu'on a eu, ça a carrément chamboulé le travail. Et du coup, eux, ils ont mis tout en place, en fait, pour nous, pour qu'on puisse s'organiser plus facilement. Par exemple, on a eu des questionnaires, en fait, qui nous demandaient comment vous vous sentez, des questionnaires une fois par semaine, qui nous demandaient, en fait, comment on se sentait, en fait, au boulot, est-ce qu'on a eu des problèmes ou pas, pour s'organiser, si on voulait revenir ou pas au bureau. Donc, et en plus, j'ai eu des collègues, des collègues qui sont très, très attentifs par rapport à ça, qui étaient très, très disponibles pour moi. Et des managers aussi qui sont à l'écoute de ce qu'on peut ressentir au télétravail. Et on n'a pas eu, moi j'ai de la chance à ce niveau-là, je n'ai pas eu en fait des personnes qui me stressaient, qui m'ajoutaient du stress en plus. Donc du coup, je pense que ça me donne envie, justement, ça me donne envie de continuer parce que c'est très rare de trouver une entreprise qui prend en compte en fait le bien-être. Parce qu'on a tendance à parler de bien-être du salarié, mais très peu le font réellement. Mais là, en fait, j'étais dans une situation où l'entreprise prenait en compte réellement mon bien-être en essayant de donner des mémos d'organisation en télétravail.
Des pistes, des solutions. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Et merci aussi à Charlie Dupiot qui nous a aidé à préparer ces entretiens. Alors, on a bien compris, difficile adaptation pour soi-même à ce télétravail. Beaucoup de salariés en ont témoigné. Et docteur Marielle Dumortier, après le télétravail, compliqué aussi parfois pour certains d'en sortir au sens propre, sortir de chez soi, ressortir, retourner au boulot, c'est pas forcément évident.
Ah non, alors là franchement, on est devant des situations où les gens craignent vraiment de retourner dans leur entreprise. Alors, ils craignent pour des conditions sanitaires qui ne seraient pas bonnes dans l'entreprise. Pardon ?
Non, c'est vous-même, vous avez un écho sur la ligne et c'est pour ça que vous entendez vous-même dans votre propre propos.
Ah bon, excusez-moi. Oui, donc je disais qu'on a des salariés qui craignent vraiment d'être contaminés encore actuellement. Et ou alors, il y en a qui ont tellement pris plaisir au télétravail avec un tel confort, notamment en région parisienne où les temps de transport sont tellement importants et où il y a aussi une crainte dans les transports en eux-mêmes d'être contaminés, que là on voit que certains ne veulent pas sortir de chez eux. Et donc là c'est très compliqué, d'autant que certains médecins traitants font des certificats en demandant le télétravail. Et nous, médecins du travail, on doit arbitrer entre tout ça et que parfois ça nous met dans des situations extrêmement compliquées. Et on est parfois dans des situations où on dit aux salariés, mais vous n'avez aucune raison médicale qui justifie que vous restiez en télétravail. Donc là, franchement, vous pouvez y retourner. Donc on est parfois dans des situations conflictuelles avec un certain nombre de patients.
Alors l'anxiété pendant le télétravail, l'anxiété d'en sortir, aussi cette réorganisation du travail qui a parfois été décidée dans l'urgence, sanité bomoni, sans forcément prendre la mesure des conditions matérielles, des conditions familiales. Et là encore, tout à l'heure, on parlait de l'inégalité de traitement. C'est vrai que d'un pavillon avec un jardin, avec les enfants qui sont plutôt âgés, à un petit appartement où on télétravaille avec deux enfants en bas âge, la situation est complètement différente.
Ah ben, ce qu'il y a, c'est que je pense que la crise actuelle a révélé l'ampleur des inégalités et du cumul des inégalités. Moi, je voudrais parler de la Seine-Saint-Denis, qui reste un des départements les plus touchés par la mortalité par Covid. C'est le seul indicateur qu'on ait, donc... le département où la hausse de mortalité sur la période de début mars, début avril, comparée entre 2020 et 2019, est la plus importante. Et en fait, pourquoi ? Parce que les conditions de... Il y a eu un cumul des inégalités du point de vue du travail. Beaucoup des travailleurs qui ont été obligés de continuer à travailler... Mmh. Dans des conditions précaires du point de vue de la sécurité Covid-19, en fait, habitent aussi en Seine-Saint-Denis, ont des logements exigus. Et donc, évidemment, la propagation du virus s'est faite d'autant plus facilement que les conditions de logement étaient mauvaises. Et cette situation, elle est, le Covid a été révélateur de ça, mais quand on prend la dernière enquête du ministère du Travail, l'enquête sumaire de surveillance médicale des risques, dont les résultats sont sortis tout récemment, c'est une enquête qui a été passée en 2017-2018, en fait, les augmentations de contraintes sont en particulier les agents infectieux. Alors, évidemment, le coronavirus n'existait pas encore, mais ça se surajoute à une situation de négligence caractérisée par rapport au risque infectieux de la part des entreprises et des lieux comme les hôpitaux, par exemple. Le nettoyage dans les hôpitaux, c'est un vrai problème. Et puis, le deuxième poste où vraiment les choses se dégradent encore, c'est les contraintes organisationnelles, les contraintes de pression sur les salariés. Et on voit bien que dans ce contexte, que ce soit le passage en télétravail dans des conditions qui n'ont pas été les meilleures pour tout le monde et qui n'ont surtout pas été anticipées, et l'absence d'anticipation sur le retour au travail après le confinement, c'est vrai que ça aurait demandé, en fait, beaucoup plus de concertation avec les travailleurs eux-mêmes pour qu'eux-mêmes puissent dire ce qu'ils ressentent. Et si certains sont allés voir leur médecin traitant en disant « moi, je ne peux pas reprendre dans ces conditions-là », ce n'est pas par plaisir, c'est pas par fainéantise. C'est parce qu'il y a une véritable anxiété sur la possibilité d'être contaminé, la difficulté de se réorganiser, tout ce qui a été dit au niveau des transports. On ne peut pas d'un côté dire aux gens qu'ils vont être verbalisés s'ils ne portent pas de masque dans les transports, et de l'autre, mettre la pression sur les salariés pour qu'ils reprennent, alors que, si je prends la ligne 13, qui relie la Seine-Saint-Denis au centre de Paris, les conditions de confinement et de distanciation n'étaient tout simplement pas possibles.
Pas garanties. Alors, comprendre justement l'impact de la pandémie sur le monde du travail, c'est ce qui vous intéresse. Hein. Michel Herry, bonjour.
Bonjour, Caroline Paris.
Vous êtes responsable de la mission Veille et Prospective à l'Institut National de Recherche et de Sécurité. En particulier, ce qui vous intéresse, c'est l'évolution du travail, les techniques de communication. On peut dire que là, vous avez eu une expérience grandeur nature, avec aussi, on peut le dire, ce télétravail installé de façon tout à fait express.
Alors oui, enfin, on s'en serait volontiers passé, hein, comme toute la France. Mais alors, effectivement, concernant le télétravail, il y a effectivement les enseignements à tirer de la période passée, mais il y a aussi à se projeter dans l'avenir, parce que déjà beaucoup d'entreprises disent à leur cadre, mais attendez, on va élargir les temps de télétravail, et même il y a des entreprises américaines qui disent, mais d'ici 10 ans, la moitié de nos cadres, ils travailleront uniquement chez eux et on ne voudra plus les voir au siège.
Alors, et on s'est même posé la question sur l'impact sur l'immobilier des sièges, on n'aurait plus besoin d'acheter ces grands immeubles, ces grandes tours.
Tout à fait, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que ça fait écho à un certain nombre de travaux qu'on a menés. C'est-à-dire que c'est de plus en plus facile de travailler à distance. C'est de plus en plus facile de télétravailler. C'est de plus en plus facile grâce à des outils informatiques. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors, vous les avez déjà évoquées, hein, et une de vos témoins les a évoquées. Okay, on a un surinvestissement, il y a des risques de troubles oculaires, de migraines, de mal de dos, etc. etc.
Mais au-delà de ça... Mais il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est le relationnel. Quand on travaille en entreprise, on a des collègues, il n'y a pas que la machine à café, on discute, on partage, on échange. Là, quand même, écran ou pas, ce n'est pas pareil.
Tout à fait, il y a ce risque de rupture des collectifs de travail, c'est-à-dire que le collègue qui vous aide au quotidien quand vous avez une difficulté, quand vous avez un coup de mou, quand il y a des difficultés relationnelles, tout ça, ça va disparaître. Mais je vais même au-delà, si vous voulez. Il peut y avoir une tentation pour certaines entreprises de se débarrasser, entre guillemets, de leur cadre. Aujourd'hui, il y a des moyens de travail qui font que certains cadres pourraient devenir indépendants. Vous pouvez leur confier des emplois, des travaux précis pour 3 mois, 6 mois, 9 ans, 9 mois. Ils les feront à distance. Au bout de ces 3 mois, 6 mois, 9 mois, ils ont un statut d'indépendant. Vous, en tant qu'employeur, vous n'avez plus affaire à eux, vous ne voulez plus avoir affaire à eux.
Et quand c'est le passage du télétravail à l'externalisation, en fait.
Externalisation complète à une sous-traitance en direction d'indépendants.
Alors, en tant qu'observateur, s'il fallait donner aujourd'hui des conseils sur, on ne le souhaite à personne, mais simplement développer le télétravail demain, c'est quoi ce qu'il ne faut pas faire? On parle bien sûr, on est dans une émission de santé, en termes de bien-être des salariés.
Il ne faut pas isoler le salarié, vous l'avez pointé très justement. Si le salarié est isolé, il va développer un système de pensée qui peut l'amener à se surinvestir, qui peut l'amener à ne plus voir la finalité de son travail.
Merci beaucoup, Michel Herry, pour ces explications, pour votre analyse. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on aborde la dernière partie de cet échange dans Priorité santé, santé et travail, toujours avec nos trois invités. Annie Thébault-Mauny, on parle de santé au travail et quand on en parle, il y a un élément très important. On a beaucoup parlé de ressenti, mais dans cette prise en charge, c'est la reconnaissance des maladies professionnelles, des causes de certains problèmes de santé. En France, par exemple, ça fait l'objet d'un recensement très précis.
Alors, ça fait l'objet d'un recensement très précis au terme d'un parcours du combattant, c'est-à-dire que les statistiques de la CNAM recensent uniquement ceux qui ont obtenu une indemnisation, si maigre soit-elle. Si je prends ce qui concerne les cancers, c'est absolument dérisoire par rapport à l'ampleur de l'exposition à des cancérogènes qui, logiquement, devrait ouvrir droit à la reconnaissance aux maladies professionnelles. Mais pour revenir au Covid, au coronavirus Covid-19, il faudrait absolument que soit entendu ce qui a été dit par l'Académie de médecine. C'est pas souvent que je donne crédit à ce que dit l'Académie de médecine, mais là, vraiment...
Ces derniers mois, ils ont beaucoup travaillé et bien travaillé.
Indispensable qu'il y ait une reconnaissance en accident du travail dans l'immédiat. Mmh. Et que, puisque ce gouvernement légifère par ordonnance sur une multitude de sujets, il y a un sujet sur lequel ils auraient dû légiférer dès le début de cette crise, c'est d'inscrire la Covid-19 dans le tableau de maladies professionnelles des risques infectieux, en élargissant ce tableau à toutes les catégories de personnel qui sont exposées à des risques infectieux. Pour l'instant, il y a une liste très limitative de travaux sur ce tableau de maladies professionnelles, et le Covid n'en fait pas, évidemment, ne fait pas partie des maladies professionnelles admises sur ce tableau.
Alors, pour redonner la parole une dernière fois, parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission, au professeur Haruna Ouédraogo, on a parlé de cette liste, ce recensement des maladies professionnelles, il y a des maladies chroniques, les accidents du travail, le risque infectieux, mais sur les maladies psychiques, difficile parfois d'en parler, difficile aussi, professeur Ouédraogo, parce que peut-être surtout dans un contexte comme le vôtre au Burkina, il y a cette fameuse problématique de la stigmatisation.
Oui, absolument. C'est un problème qui est malheureusement assez préoccupant parce que beaucoup de patients qui sont sortis guéris des structures de formation sanitaire, en fait, nous relatent beaucoup d'actes en fait de stigmatisation de la part de l'entourage et de la part également des collègues de travail qui, à tort, en fait, considèrent toujours que la personne peut être vectrice toujours en fait du virus, et donc cette peur-là fait que il y a en fait des attitudes qui sont tout à fait négatives vis-à-vis donc des personnes, et parfois même c'est toute une cour, c'est toute une famille en fait qui est mise à l'écart, qui est stigmatisée simplement parce que elle a eu le malheur d'avoir en son sein une personne qui a été déclarée contaminée donc par le coronavirus. Ensuite, vous aviez...
Oui, il faut conclure, excusez-moi, professeur.
Oui, alors dans beaucoup de situations, les personnes en fait qui sont guéries cliniquement en fait de cette maladie-là ont du mal à retrouver aussi pour certains petits emplois. Vous voyez, en fait, leur poste de travail, simplement parce qu'on a peur qu'ils soient encore des vecteurs en fait de la maladie. Donc c'est un problème que nous vivons et il y a en fait du travail à faire pour sensibiliser davantage en fait les communautés afin que cessent justement ces attitudes à l'égard des personnes.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. À vous, docteur Marielle Dumortier, médecin du travail en Ile-de-France. Annie Thébault-Mauny, sociologue directrice de recherche honoraire à l'INSERM. Et à vous, professeur Ouédraogo, psychiatre et président de la Société Burkinabé de santé mentale. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène. Et aujourd'hui, les deux Didier, Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, on va parler de la migraine. Quelle prise en charge, quels conseils pour soulager les douleurs associées à cette maladie neurologique? Comment la diagnostiquer? On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.